Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Mercredi 22 novembre 2017, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Ce matin, édition spéciale consacrée essentiellement au Zimbabwe.
Les cris de joie et concerts de klaxons qui ont accueilli hier dans les rues de Harare la décision du président Robert Mugabe de finalement accepter de démissionner après 37 ans dans ce pays d'Afrique australe. Yakuba Ouedraogo fait le point.
La période de transition qui s'ouvre au Zimbabwe devrait être dirigée par l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, 75 ans. Dimanche dernier, il a été bombardé président du parti au pouvoir, la ZANU-PF, et candidat à l'élection présidentielle de 2018. En exil depuis son éviction le 6 novembre, il devrait prêter serment en tant que président pour une période de 90 jours, a déclaré le porte-parole de la ZANU-PF, Simon Kaya Moyo. La nomination de celui que les Zimbabwéens surnomment le crocodile devrait être officialisée aujourd'hui par le président du Parlement. Sans attendre la prestation de serment d'Emmerson Mnangagwa, l'opposition a demandé des négociations pour démocratiser le pays. Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, a salué une opportunité historique pour les Zimbabwéens d'en finir avec l'isolement de leur pays, souhaitant la mise en place de réformes économiques et politiques. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a, elle, salué la décision du président Mugabe de se retirer, ajoutant que l'Union européenne est prête à accompagner la mise en place d'un dialogue inclusif qui respecte les aspirations du peuple. En présentant sa démission sous la pression de l'armée, de son propre parti et de la rue, Robert Mugabe a mis un point final à 37 ans de règne sans partage.
Adulé à son arrivée à la tête du Zimbabwe indépendant en 1980, Robert Mugabe était, avant donc d'être poussé à la démission hier, vilipendé par ses détracteurs et considéré comme un autocrate qui a ruiné une économie jadis prospère. Robert Mugabe, de libérateur à oppresseur, son portrait avec Jacques Aristide.
Pour ses partisans et les anciens combattants de la lutte contre le pouvoir colonial, Robert Mugabe a toujours su rester un dirigeant révolutionnaire et une icône. S'il était fustigé par les Occidentaux, disent-ils, c'est parce qu'il refusait d'être à leur solde. Il est emprisonné pendant 10 ans au milieu des années 1960 parce qu'il combattait la colonisation britannique à l'époque de la Rhodésie blanche. En 1980, année de l'indépendance, Robert Mugabe est élu Premier ministre. Il prêche alors, plus de 10 ans avant Nelson Mandela, dans l'Afrique du Sud voisine, la réconciliation entre Noirs et Blancs. 7 ans plus tard, à la faveur d'une modification de la Constitution, il s'installe comme président. Au milieu des années 1980, une rébellion dans la province du Matabeleland est réprimée dans le sang. Robert Mugabe en profite pour s'en prendre directement à son ancien allié de la lutte révolutionnaire, Joshua Nkomo. En 2000, il se lance dans une offensive tous azimuts, soutient l'occupation violente des fermes blanches, virulente campagne contre l'homosexualité, sermon féroce contre les complots de toutes sortes qui le menaceraient. L'économie sombre dans le chaos et subit l'inflation la plus élevée au monde. Le chômage touche 80% de la population. Il obtient un nouveau mandat de 5 ans en mars 2008, au terme d'un scrutin marqué par les violences et le retrait de son rival de longue date, Morgan Tsvangirai. Sur un plan personnel, Robert Mugabe est un ascète élevé par les jésuites qui ne boit jamais d'alcool. Il est marié depuis 1995 à son ex-secrétaire Grace Marufu, qu'il a épousée 3 ans après la mort de sa première femme d'origine ghanéenne, Sally. Il est père de 3 enfants. Grace Mugabe, 52 ans, était considéré ces derniers temps comme la personnalité la mieux placée pour lui succéder jusqu'à l'intervention de l'armée.
À l'instar du secrétaire d'État Rex Tillerson, l'ambassade américaine à Harare a salué la démission de Robert Mugabe, déclarant dans un communiqué « Les États-Unis demandent instamment le respect de la primauté du droit et des pratiques démocratiques établies. Quels que soient les arrangements à court terme que le gouvernement peut établir, la voie à suivre doit conduire à des élections libres, équitables et inclusives », lit-on encore dans le communiqué de l'ambassade des États-Unis à Harare.
Toujours à Harare, John Stewart, vice-président du Forum des ONG pour la défense des droits de l'homme au Zimbabwe, n'a pas caché sa joie à l'annonce de la démission de M. Mugabe.
C'est une explosion de joie et les gens sont tous heureux de cette situation. C'est une ouverture vers l'avenir. C'est la fin de 37 ans de monopole de pouvoir par Mugabe. Et maintenant, on voit une ouverture, on a une chance d'une libération nouvelle. On a évidemment beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses qui sont inconnues. Mais le fait que M. Mugabe a démissionné fait que on peut penser à de nouvelles possibilités dans l'avenir. On a une situation assez terrible à ce moment sur le plan économique, même sur le plan de la fonctionnement des institutions nationales. On a peut-être le quart de la population qui sont hors du pays. Ça va prendre du temps. On a trop d'espérance à ce moment pour que les choses changent très rapidement. Mais au moins, on a une ouverture vers l'avenir. C'est ça le plus important.
John Stewart, activiste des droits de l'homme au Zimbabwe, joint à Harare par Nicolas Pinault.
La démission du président Robert Mugabe après presque 4 décennies au pouvoir offre à son pays de nouvelles possibilités. Son ex-numéro 2, Emmerson Mnangagwa, surnommé le crocodile à cause de son caractère impitoyable, est maintenant en bonne position pour accéder à la magistrature suprême. Quelle lecture faire de cette révolution de palais? Faut-il s'attendre réellement à un avenir meilleur pour le Zimbabwe? Eric Manirakiza a joint en Afrique du Sud le professeur André Thomashausen de l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA.
Ça, ce sera la grande question, la question que se posent les organisations de la société civile, la presse, les intellectuels, parce que, évidemment, les grands généraux, ils faisaient toujours partie du clan, de l'élite très privilégiée du pouvoir. Mais je pense que, spécialement M. Mnangagwa, qui est un politicien avec beaucoup d'expérience, va reconnaître la nécessité d'un renouvellement du mandat du peuple, la nécessité d'une inclusion démocratique, c'est-à-dire, en termes concrets, la nécessité d'élections libres, parce que les dernières élections au Zimbabwe n'étaient pas du tout libres, pour que le gouvernement, à partir de maintenant, même déjà pendant la transition, pourrait avoir l'autorité et la légitimité d'adopter des réformes et de mener le pays en avant. Ce moment-ci, le pays est dans une stagnation complète. Il manque des nourritures, il manque des médicaments, il manque même l'essence et le gazole. La situation est très, très fragile.
Mais Emmerson Mnangagwa est également comptable de la situation actuelle parce qu'il co-gérait avec Mugabe.
Absolument. C'est lui qui est le grand coupable de la falsification et la dégénération des élections de 2008. Mais c'est un technocrate du pouvoir. C'est un homme qui a une réputation d'être un réaliste, surtout très intelligent. Je soupçonne aussi qu'il a l'appui de la Chine populaire, qui est le plus grand investisseur au Zimbabwe. Et ça lui permettra de renégocier les conditions financières et économiques dans les prochains 6 mois, ce qui sera essentiel pour maintenir la paix et l'ordre public, parce que le pays est dans une crise très très sévère.
Robert Mugabe part par la petite porte.
C'est un peu un choc pour beaucoup de gens en Afrique. Mugabe était un symbole, un idole, d'un des grands chefs de la libération, de la décolonisation en Afrique. Mais la vérité, c'est qu'il n'y aura personne qui nierait que dans ces derniers temps, Mugabe a démontré des signes très très clairs de sénilité. Il a essayé de pratiquer une espèce de révolution, de transformation du style de maoïsme, du style de Mao Zedong, mais il a échoué. Il n'a pas pu créer un pays fort et industrialisé, mais il a détruit pratiquement toutes les bases de l'économie du Zimbabwe et il a perdu aussi l'unité nationale. Mnangagwa, un technicien, et les futurs élus, ils auront au moins besoin d'une dizaine d'années pour remettre le Zimbabwe sur un parcours de succès et de progrès.
Le professeur André Thomashausen, expert en droit constitutionnel, joint à Pretoria, en Afrique du Sud.
Voilà pour ce spécial sur le Zimbabwe. Merci à Yakuba Ouedraogo, Jacques Aristide, Nicolas Pinault et Eric Manirakiza.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité, en Somalie, 100 de combattants islamistes Chebab ont été tués dans une frappe aérienne américaine contre un de leurs camps d'entraînement. C'est ce qu'a annoncé le commandement américain pour l'Afrique, Abdourahman Dia.
AFRICOM indique qu'en coordination avec le gouvernement fédéral de Somalie, les forces américaines ont mené une frappe aérienne dans ce pays contre un camp des Chebab, tuant plus de 100 combattants. L'opération a eu lieu hier selon le communiqué du commandement américain pour l'Afrique qui précise que le bombardement a eu lieu à quelques 200 km au nord-ouest de la capitale Mogadiscio. Les États-Unis ont intensifié leurs opérations en Somalie et les drones ont ciblé les Shebab et les djihadistes du groupe État islamique ces dernières semaines. En porte-parole du Pentagone, le colonel Rob Manning a fait état la semaine dernière de 36 Shebab et 4 djihadistes de l'EI tués au cours de 5 frappes menées entre le 9 et le 12 novembre dernier. Fin mars, le président américain Donald Trump avait étendu les pouvoirs donnés aux militaires américains pour mener des frappes dans ce pays de la Corne de l'Afrique miné par la guérilla des Shebab, malgré la présence de quelques 22 000 hommes de la force de l'Union africaine, AMISOM.
En République centrafricaine, 6 des 16 préfets nommés sont encore bloqués à Bangui, la capitale. Une situation qui s'explique en grande partie par l'insécurité et aussi l'hostilité de certains groupes armés. De Bangui, précision de notre correspondant Freeman Sipila.
Sur les 6 préfets encore présents dans la capitale, 2 des zones du centre-sud et du sud-est n'ont pu rejoindre leur poste pour des raisons logistiques. Les 4 autres ne peuvent s'hasarder dans leur lieu d'affectation, contrôlé encore par des groupes armés hostiles à leur présence. Dans la Nanagribizi, au centre du pays, le MPC, Mouvement Patriotique Centrafricain, s'est fermement opposé à l'installation du nouveau préfet, arguant que les négociations avec Bangui n'ont pas encore abouti. Même son de cloche dans la Haute-Coteau, la vacance Kagaï et le Bamingi Bangoran, contrôlés par le FPRC de Nouradine Adam, tête pensante de l'ex-rébellion Séléka. À Bangui, l'exaspération est grande. Sociétés civiles et partis politiques ont appelé le gouvernement à la fermeté face à ces groupes armés qui ont pourtant leurs représentants au sein du gouvernement. De son côté, la MINUSCA, la force de l'ONU, se veut déterminant. La restauration de l'autorité de l'État ne peut faire l'objet de chantage, a martelé Vladimir Monteiro, son porte-parole. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Les États-Unis se sont félicités des progrès faits par les juges d'instruction guinéens qui enquêtent sur le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, où plus de 150 protestataires ont été tués et plus de 100 femmes violées par les forces de sécurité lors d'une manifestation pacifique. Le département d'État américain a souligné dans un communiqué qu'il y a encore un travail important à faire pour rendre justice aux victimes et tenir responsables de leurs actes ceux qui ont commis ces atrocités. Le 9 novembre dernier, les juges guinéens ont conclu formellement leur enquête. Des accusations ont été portées contre plus de 14 suspects.
Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a donné des assurances hier à son homologue américain Donald Trump, assurances selon lesquelles il œuvrait en faveur d'un règlement politique à long terme en Syrie. Monsieur Poutine a tenu ses propos après une rencontre avec le président syrien Bachar al-Assad et à la veille d'un sommet avec l'Iran et la Turquie sur l'avenir de la Syrie. Les précisions de John Linden.
Après avoir aidé Bachar al-Assad à reprendre l'avantage sur le terrain face aux rebelles et aux djihadistes, Vladimir Poutine, principal soutien du régime syrien, estime que la phase militaire touche à sa fin et cherche à relancer le processus des règlements politiques. Le chef du Kremlin multiplie les contacts à quelques jours de pourparlers sous l'égide de l'ONU à Genève le 28 novembre prochain. Des pourparlers qui pourraient contribuer à mettre fin à une guerre ayant fait au moins 330 000 morts en 6 ans et des millions de blessés. Après avoir reçu lundi le président syrien, Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec le président américain, malgré les relations difficiles entre Moscou et Washington. Selon le Kremlin, le président russe a assuré être prêt à œuvrer activement en faveur d'un règlement à long terme du conflit sur la base des résolutions de l'ONU, tout en soulignant la nécessité de maintenir la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie. Jusqu'ici, toutes les tentatives de mettre fin à la guerre se sont heurtées au sort de Bachar al-Assad, mais le président syrien, au pouvoir depuis 2000, apparaît désormais en position de force.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Avant la Minute Éco et la page sport, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, une sortie du commandant de l'opération française Barkhane, le général de brigade Bruno Guibert, fait du bruit. Selon la presse à Bamako, il a mis en doute la bonne foi des groupes armés signataires de l'accord de paix, accusant ces derniers de signer des accords qu'ils n'appliquent pas sur le terrain. Bagassi Koura a recueilli la réaction de l'activiste malien Tibiri Demba.
Nous savons, il y a très fort longtemps de cela, et nous avons tout le temps dénoncé ça. Ces groupes terroristes que les Européens ou la France appellent les groupes armés, autant quand ils sont à Kidal, ils sont emmenés là, et à la frontière Niger-Mali, ils sont terroristes.
Oui, mais il doit y avoir quand même parmi tous ces gens des groupes qui sont assez sincères, qui ont envie d'aller à la paix.
Les seuls groupes sincères parmi ces gens, c'est Gatia. Ils ne veulent que l'unité du Mali. Surtout ces groupes qui sont appelés à Zawad par-ci par-là, ce sont des groupes terroristes. Ils viennent signer des contrats ici à Bamako, on les donne l'argent. Après, cet argent-là est utilisé pour acheter des armes encore contre l'armée malienne.
Et pourquoi Bamako n'a pas réagi? Il a fallu un général français pour le dire publiquement.
Bamako est très faible. Bamako est affaibli carrément par la France. C'est la France qui refuse catégoriquement la présence des militaires maliens à Kidal, dans ces parties-là. On dirait que la France a d'autres agendas au Mali, au nord du pays, qui est caché, mais nous sommes là-dessus, nous sommes en train de découvrir petit à petit la vraie face de la France.
Oui, mais c'est la France aussi qui a arrêté la progression des djihadistes sur Bamako.
Oui, la France a arrêté la progression des djihadistes sur Bamako, il faut le dire, c'est vrai, mais la France a fait ça pour ses propres intérêts parce qu'il y avait des Français ici.
Et comment vous voyez cet accord de paix dans ce contexte-là?
Moi, je dirais, ce n'est pas un accord de paix, parce que c'est un accord qui est signé entre le gouvernement et le groupe armé ou le groupe terroriste. L'accord de paix que nous voulons, c'est un accord où tout le peuple malien sera concerné.
C'était l'activiste malien Tibiri Demba, joint à Bamako. En Guinée, les cours dans les établissements privés, dans les établissements primaires et secondaires, sont perturbés depuis plus d'une semaine par une grève de Conakry, compte rendu de Zakaria Camara.
C'est une grève sauvage, des mots du ministre guinéen de la Justice pour dénoncer le caractère illégal et illégitime de mouvement. Ceux qui sont signataires de l'avis de grève sont suspendus de toute activité syndicale par leur organisation, précise à son tour le ministre de l'Éducation nationale. Après une semaine de grève, le bilan est inacceptable, a dit Ibrahima Khalil Konaté, ministre de l'Éducation nationale.
La grève est en train de faire des ravages. Je vous informe qu'une jeune fille de 10 ans a été violée par un enseignant dans la salle de classe. Quand on a venu jeter des cailloux, dans ce mouvement, les enfants ont fui. Il a récupéré la petite pour le faire rentrer dans la salle. Il l'a enfermé et il a fait quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Il y a une fille élève à l'école Africoff de Sangoya. Elle a perdu un œil par projectile ayant entraîné l'explosion du globe oculaire. Il y a un élève qui est mort à Dabomba. Je pense que ça commence à être de trop.
Des manifestations violentes sont signalées à main endroit de la capitale. Des jeunes qui, pour ériger des barricades ou brûler des pneus sur la chaussée, provoquant ainsi une perturbation de la circulation. Face à la situation, Bourayma Kondé, ministre de l'administration du territoire qui parle d'incitation à la révolte, appelle les administrateurs territoriaux à plus de vigilance.
Les écoles sont toutes dans une certaine circonscription. Faites en sorte que la délation n'est pas raison du réalisme pour lequel vous êtes là pour défendre les intérêts de vos collectivités. Mon appel est celui d'un contrôle de proximité, d'une sécurisation de proximité. C'est vrai que l'État ne va pas croiser les bras pour que des individus défendant ceux qu'ils appellent leurs intérêts contre ceux du peuple de Guinée expose nos enfants.
Quatre enseignants ont été libérés après une courte interpellation. Ces grévistes accusent les autorités administratives d'être responsables des conséquences de la grève. Amadou Massa Doumbouya et ses collègues sont décidés à aller jusqu'au bout de leurs revendications.
Jusqu'à l'heure où nous sommes, aucune porte n'est ouverte pour les négociations. Les gens restent radicaux sur leur point. pas essayer de prendre ce mouvement syndical là au sérieux. Depuis 2007, au temps du général Alassane Conté, un régime militaire nous donne une valeur monétaire d'indice à 1030. Un président civil vient et nous retire ça. Il faudrait que les gens sachent que ce n'est pas une augmentation. Et c'est pourquoi nous sommes radicaux par rapport à ce point-là.
Des manifestations ont été encore signalées dans la capitale avec un blessé par balle. La victime a été touchée à la tête selon plusieurs témoins. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
La Fondation Mo Ibrahim a publié ce lundi son indice sur la gouvernance africaine dans son nouveau rapport 2017. Il s'agit de l'un des baromètres les plus attendus de l'année sur l'état du continent africain. Dili Diko a joint à Praia au Cap-Vert Mathias Ungpe, politologue et administrateur du programme de gouvernance politique à Open Society.
Disons que ce nouveau classement, comparé à celui qui est sorti l'année dernière, est plutôt, je dirais, grosso modo favorable. Parce que ça donne le sentiment que dans la plupart des pays de l'Afrique, il y a eu un peu comme un progrès. Même si dans certains pays, le progrès est relativement faible. Mais en général, c'est comme si, par exemple, de l'année dernière à cette année, il y a eu comme un progrès en matière de gouvernance en Afrique. Et donc je pense que de ce point de vue, c'est comme si c'était positif.
Il semblerait aussi qu'il y ait des ralentissements, en particulier au niveau de la sécurité et de l'état de droit. Comment expliquer cela ?
Du point de vue de la sécurité, je crois que ça se comprend aisément lorsqu'on voit l'évolution, par exemple, des phénomènes d'insécurité liés au terrorisme, d'insécurité liée au radicalisme religieux. Je pense que l'Afrique a connu, par région, par exemple, si vous prenez l'Afrique de l'Ouest, il y a eu beaucoup plus de problèmes liés à l'insécurité de cette envergure-là. Du point de vue des droits de l'homme, il faut reconnaître que le problème ne se pose pas qu'en Afrique, de façon générale, et l'Afrique n'a pas fait exception à ce phénomène, et vous l'observez en partie par exemple aux efforts que les gouvernements font pour restreindre ce qu'on appelle les espaces civiques dans la plupart des pays en Afrique. Vous voyez l'effort pour restreindre l'espace d'expression, la jouissance de la liberté d'expression par les citoyens. Je crois qu'il y a de plus en plus d'efforts dans les pays de restreindre cette liberté, et cela se ressent, n'est-ce pas, dans ces mesures, que ce soit Mo Ibrahim, que ce soit Freedom House. On a le sentiment que du point de vue des droits de l'homme, il y a comme un recul en Afrique, mais surtout à l'échelle mondiale.
Quelles sont les perspectives du continent selon le rapport 2017 ?
Si je veux parler des perspectives, il y a des raisons de croire que du point de vue de la sécurité, il y a des améliorations dans les années à venir. Parce que, aussi bien dans les régions, si vous prenez la région ouest africaine, la région de l'Afrique de l'Est, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits pour contrer l'insécurité liée au radicalisme religieux, au terrorisme, à l'extrémisme violent, etc. Et donc je pense que nécessairement les années à venir ou les mois à venir, ces efforts vont produire des résultats. Mais lorsqu'il s'agit des droits de l'homme, je suis inquiet parce que les forces internes aux pays africains, ce sont en général les organisations de la société civile, ce sont les pays développés qui octroient les financements pour le fonctionnement de ces organisations. Ces financements sont en train d'être réduits en ce moment. Le deuxième facteur important, c'est qu'au niveau de cette communauté internationale. Avec l'élection des gens comme Trump, le langage aujourd'hui n'est plus tellement pro-droits de l'homme, c'est plutôt pro-économie, pro-sécurité. Et donc, franchement, par rapport aux droits de l'homme, je suis inquiet pour les mois à venir.
Joint à Praia au Cap-Vert, Mathias Ungpe, administrateur du programme de gouvernance politique, il est politologue à Open Society. La Minute Éco, Solange Niamoulissa.
Le géant sud-africain des télécoms MTN sommet de payer 134,4 milliards de francs CFA de redevances impayées aux autorités béninoises tente de négocier cette somme jugée excessive. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin a ouvert une procédure de sanction contre la filiale locale de MTN, Spastel Bénin SA, pour n'avoir pas payé des redevances annuelles de gestion et d'utilisation des fréquences, selon une décision datée du 17 novembre. Orabank, présent dans 12 pays africains, et Entrepreneurium, le premier accélérateur philanthropique du continent, présent dans 5 pays, ont signé un protocole d'accord pour soutenir les entrepreneurs du Gabon et du Sénégal dans 3 secteurs prioritaires, l'agriculture, les développements durables et l'entrepreneuriat féminin dans tous les secteurs. Le projet prévoit dans un premier temps de cibler 16 femmes entrepreneurs dont les besoins de financement cumulés se montent à un total de 479 millions francs CFA. Dangote Cement poursuit son expansion en Afrique centrale avec l'inauguration prévue jeudi 23 novembre d'une nouvelle cimenterie au Congo-Brazzaville en Fila dans le district de Yamba. D'un coût de 300 millions de dollars, l'usine qui fonctionne depuis septembre 2017 a une capacité de production annuelle de 1,5 million de tonnes. Ce nouvel investissement s'inscrit dans le cadre de l'objectif stratégique du conglomérat nigérian de porter ses capacités de production à 77 millions de tonnes par an d'ici 2019 contre 46 millions au 30 septembre 2017.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Real se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Bon, et le Real Madrid s'est largement imposé 6-0 à Nicosie contre l'Apoel, avec notamment un doublé de Karim Benzema et un autre de Cristiano Ronaldo. Le club madrilène tenant du titre est qualifié pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Au contraire de Dortmund qui a perdu contre Tottenham de 2-1. Incapable de gagner un match lors de cette Ligue des Champions, Dortmund est donc déjà éliminé après 5 journées de retour dans l'équipe après une sanction infligée par son club. Aubameyang avait pourtant ouvert le score contre les Anglais. Mené 3-0 à la mi-temps, le FC Séville a arraché le match nul contre Liverpool. 3 buts partout. Rien n'est joué dans ce groupe E pour la qualification. À noter que le Sénégalais Sadio Mané avait inscrit le deuxième but pour les Reds. Le Spartak Moscou n'a pas profité de la réception de la faible équipe de Maribor pour s'imposer. Score final 1 but partout. Le club moscovite, qui n'a gagné qu'un match sur 5, jouera sa qualification à Liverpool lors de la dernière journée. Large vainqueur de Donetsk 3-0, Naples a encore une chance de se qualifier. Manchester City, qui s'est assuré la première place du groupe, bat Feyenoord 1-0. Le Beşiktaş s'est qualifié pour la première fois de son histoire en huitième des finales de la Ligue des Champions après un match nul 1-0 face à Porto. Leipzig a surclassé Monaco en principauté, une large victoire 4-1, avec notamment un but du Guinéen Naby Keita.
Suite de cette cinquième journée de Ligue des Champions ce soir en Europe.
Et oui, avec 4 victoires en 4 matchs, Manchester United est quasiment assuré d'aller en huitième de finale. L'équipe de José Mourinho peut se contenter d'un simple match nul à Bâle pour se qualifier et terminer en tête du groupe. Le CSKA reçoit à Moscou le Benfica. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich n'ont plus qu'à se battre pour la première place. Les Parisiens sont en tête du groupe et reçoivent le Celtic Glasgow, alors que le Bayern se rend à Anderlecht. Dans le groupe C méconnaissable cette saison, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann a réalisé un début de saison catastrophique. À l'image de ses 2 matchs nuls contre Karabakh, les Madrilènes n'ont plus le droit à l'erreur. Ils reçoivent l'AS Rome, leader de ce groupe C avec 8 points. Chelsea se rend en Azerbaïdjan pour affronter Karabakh. Enfin, dans le groupe D, la Juventus Turin n'aborde pas la réception du Barça dans les meilleures conditions. Le Sporting Portugal accueille l'Olympiakos.
Recul du Cameroun au classement de la CAF.
Oui, le Cameroun ne pourra engager que 2 clubs dans les compétitions africaines l'année prochaine, d'après le nouveau classement publié par la Confédération africaine de football. Pour la première fois depuis 2004, le Cameroun est sorti du top 12, qui garantit 2 représentants dans chaque compétition, la Ligue des Champions et la Coupe CAF, soit au total 4 clubs. Ainsi, pour la saison 2018, Heading Sport Lekki, champion du Cameroun en titre, disputera la Ligue des Champions. Et puis, New Star de Douala ou l'UMS de Loum, vainqueur de la Coupe du Cameroun, sera le représentant en Coupe CAF. Allez Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
En résultat, Los Angeles Lakers et Chicago Bulls, 103 à 94. Dernière mise à jour sur le Zimbabwe, l'ancien vice-président en exil Emmerson Mnangagwa, pressenti pour remplacer le président Robert Mugabe, qui a démissionné hier donc après 37 ans au pouvoir, doit rentrer aujourd'hui au pays, a indiqué à l'AFP son assistant personnel. Selon Larry Mahuima, il arrivera à la base militaire de Maniame à Harare à 13h, soit 11h GMT. Il se rendra ensuite au quartier général du parti pour faire le point, a-t-il dit, puis au bureau de la présidence pour faire un autre point. Voilà, c'est tout pour Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Merci de l'avoir suivi, cette édition. À la console d'Arel Smith, Anne Albeson et Jessa Sedudia à Washington. Thank you.